Vous écoutez Aligre FM 93.1. De l'huile sur le jeu. Une chronique par Antoine Marseille. Le Seigneur des Anneaux. L'olympisme a su s'installer dans les imaginaires comme une douce chanson synonyme de paix, d'amour et de fair-play. Toutefois, si l'on porte un regard sur son histoire et ses acteurs, on peut entendre une toute autre mélodie, nettement plus lugubre et vicieuse. Le sport est un enjeu de pouvoir, et certains l'ont très bien compris, comme Juan Antonio Samaranch. Ce riche héritier d'un capitaine d'industrie catalan a su manœuvrer habilement pour passer de ministre de Franco à président du comité olympique, amorçant un virage majeur dans la politique olympique. Retour sur le parcours tortueux du bien nommé Seigneur des Anneaux. Juan Antonio Samaranch est catalan. Fils d'un mania du textile, il évolue depuis très jeune dans le milieu du sport en tant que joueur de hockey sur patins à roulettes, dont il intègre l'équipe nationale avant d'en devenir le sélectionneur. Dans les années 50, il s'engage en politique, et plus particulièrement dans l'administration sportive. Président de la Fédération de patinage, puis membre du comité olympique espagnol, il entre dans le gouvernement de Franco en 1967, en devenant secrétaire des sports. Samaranch est un franquiste convaincu, déclarant en 1975, à la mort du dictateur, « Je considère que la figure et l'œuvre réalisée par le Caudillo s'inscrira dans l'histoire comme l'un des plus grands chefs d'État du XXe siècle. » Paris perdu. Parallèlement à sa carrière politique en Espagne, il intègre le Comité international olympique en 1965, en se faisant courtisan du président de l'époque, Évry Brundage, qu'il flatte avec des cadeaux et qu'il invite dans sa villa de la Costa Brava. Juan Antonio sait y faire, il connaît les ficelles du métier. S'il gravit les échelons au sein du comité jusqu'à en être le vice-président de 1974 à 1978, il échoue pour le moment à briguer la présidence. Le tournant dans la carrière de Samaranch a lieu en 1977. Fragilisé par la disparition de Franco, auquel il était resté fidèle jusqu'au bout, il décide de s'éloigner de l'Espagne, qui essaye de faire table rase de l'administration mise en place par le dictateur. Il accepte donc un poste d'ambassadeur en Union soviétique. Cette destination n'est pas un hasard, car Moscou doit accueillir les Jeux Olympiques en 1980. Et Samaranch est un stratège. Quelques mois avant les Jeux Olympiques, en 1979, l'URSS envahit l'Afghanistan. Les États-Unis sont furieux, et dans ce contexte de guerre froide, ils appellent leurs alliés à un boycott des Jeux moscovites. Mais Samaranch, devenu officieusement un agent d'influence pour l'Union soviétique, s'active en coulisses pour convaincre les pays qui hésitent à rejoindre le boycott américain. Ce ne sont au final que 4 pays alliés aux Américains qui ne se rendent pas à Moscou. Le comité international, lui aussi astucieusement influencé par l'espagnol, apporte son soutien à cette édition sous haute tension. Ainsi, lorsque ce même comité doit élire un nouveau président, c'est en toute logique que Samaranch se présente, pouvant notamment compter sur le soutien des pays du bloc de l'Est, qui voient en lui un homme capable de résister aux pressions américaines. Mais Samaranch profite également de l'appui de grandes marques, à l'instar d'Adidas, qui lui promettent de juteux contrats publicitaires pour les prochaines éditions. Le 17 juillet 1980, le stratège catalan est élu président, poste qu'il occupera pendant 21 ans. C'est le deuxième mandat le plus long de l'histoire de ce comité, derrière celui de Pierre de Coubertin. La révolution Samaranch est en marche. Dans un premier temps, il poursuit la professionnalisation de l'olympisme afin d'attirer les plus grandes stars du sport et développer l'attractivité de l'événement. Mais le principal tournant est sans doute la modification des statuts du CIO, permettant au comité d'utiliser l'image et les symboles olympiques à des fins commerciales. Les Jeux olympiques changent de dimension. Les aristocrates historiquement à la tête du comité sont remplacés par d'anciens ministres ou capitaines d'industrie, et les revenus olympiques sont multipliés par 100 en moins de 30 ans. Samaranch parvient ainsi à faire de Barcelone la ville haute en 1992, arrivant en héros dans une Espagne qui tourne la page du franquisme. Mais l'exemple le plus parlant reste sûrement l'attribution des Jeux de 1996. Alors qu'Athènes est grande favorite pour organiser le centenaire des Jeux Olympiques modernes, le CIO se tourne finalement, à la surprise générale, vers Atlanta, aux États-Unis. La raison ? Un contrat publicitaire hors norme avec Coca-Cola. Les Jeux Coca-Cola marquent un tournant inédit et notre protagoniste est affublé d'un nouveau surnom qui lui va comme un gant, Juan Antonio Samaranch. On passera ensuite sur les accusations de corruption du CIO pour l'attribution des JO d'hiver de 2002 ou bien la création du musée de l'Olympisme à Lausanne en partenariat avec Adidas et Coca. Le Seigneur des Anneaux s'est imposé comme un interlocuteur politique et commercial de premier plan sur la scène internationale, faisant du CIO un proto-gouvernement puissant et fortuné. Logiquement, lorsque son dernier mandat se termine et qu'il approche des 80 ans, il se fait nommer président d'honneur à vie et coopte son fils, Juan Antonio Jr., pour qu'il intègre le comité. Son héritage est assuré, son empire est sur de bons rails. Le Seigneur des Anneaux s'éteint en 2010 avec des obsèques nationales en présence du roi d'Espagne et de nombreuses personnalités du sport. C'est même Rafael Nadal qui porte son cercueil. L'académicien Maurice Druon résumera ainsi sa vie par une formule éloquente. Le cœur de Pierre de Coubertin se trouve à Olympie. Est-ce à Wall Street qu'il conviendra de déposer l'urne contenant le vôtre ?